Radio France Internationale, 1h à Paris, 3h à Damas.
Mathis Limano.
C'était une promesse du nouveau pouvoir en Syrie. La conférence de dialogue national a débuté ce mardi à Damas. Le président par intérim s'est engagé à garantir le monopole de l'État sur les armes. Également au menu, les menaces d'Israël qui ne veut pas de déploiement de forces syriennes proches de sa frontière. Et cet absent de marque, les Kurdes et leurs forces n'ont pas été conviés. Deuxième jour de procès aux États-Unis pour l'assassin présumé d'un enfant américano-palestinien. Quelques jours après le 7 octobre 2020, un septuagénaire avait attaqué au couteau un enfant de 6 ans. Et puis la révolution populaire aux Philippines fêtait son 39e anniversaire ce mardi. Mais le contexte politique reste tendu dans le pays. C'est le fils du dictateur déchu qui est aujourd'hui au pouvoir. Ahmad al-Sharré salue une nouvelle phase historique, le président par intérim de la Syrie, lors de la conférence de dialogue national qui s'est ouverte ce mardi à Damas. Il s'est engagé devant les participants à garantir le monopole de l'État sur les armes, insistant sur la nécessité de désarmer les différentes factions et les intégrer à la nouvelle armée syrienne. Cette conférence, marquée par l'absence des Kurdes et de leurs forces, est la première étape d'un processus de réconciliation après 13 années de guerre civile, Mohamed Erhami.
Avec un taux de participation de 97% sur 570 personnes, la conférence du dialogue national syrien s'est achevée en établissant un plan de réforme en 6 axes. Justice transitionnelle, constitution, institution, liberté, société civile et économie, selon Hind Kaibat, membre du comité préparatoire.
Nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'injustice. Ma sécurité en tant que chrétienne dépend de la sécurité de mes frères sunnites et alaouites, tout comme elle dépend de celle de tous les Syriens. Nous ne pouvons accepter la marginalisation d'aucun groupe ou composante nationale, car nous sommes tous les enfants de ce pays.
En revanche, certains participants, comme le doyen de la faculté des sciences politiques de l'université de Damas, le docteur Khalil Abdou, estiment que ce n'est qu'une première étape et que le pays a encore un long chemin à parcourir.
Il y a effectivement une tentative d'imposer des diktats aux Syriens avec des modèles et des solutions préconçues. C'est pourquoi le président al-Sharré a souligné que cette société possède ses propres spécificités et qu'il est inacceptable d'importer un système étranger pour l'appliquer aux Syriens.
Le président syrien Ahmed Sharra a ouvert la conférence en réaffirmant son rejet de la division du pays et en refusant d'autoriser les factions à posséder des armes en dehors du cadre de l'État. À Damas, Mohamed Erhami, RFI.
Et dans leur déclaration finale, les participants ont en outre dénoncé les déclarations provocatrices du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a averti dimanche que son pays ne permettrait pas aux forces syriennes de se déployer au sud de Damas. Réaction dans la soirée, l'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte au moins 2 morts dans la zone après des frappes israéliennes, des dépôts d'armes visés selon l'État hébreu. Sous la supervision des médiateurs au Caire, Israël et le Hamas sont parvenus à un accord en vue de la libération des prisonniers palestiniens. Ils devaient être relâchés la semaine dernière en échange des corps de 4 otages israéliens. La haine qui découle du conflit au Proche-Orient exportée aux États-Unis. Souvenez-vous, le 14 octobre 2023, une semaine après l'attaque du Hamas, un enfant palestino-américain est assassiné dans l'État de l'Illinois. Le procès s'est ouvert lundi sur le banc des accusés. Un septuagénaire, rappel des faits avec Guillaume Nodin.
Wadi Al-Fayoumi avait 6 ans. Comme beaucoup de familles d'immigrants américains, la sienne était venue aux États-Unis pour trouver une vie meilleure. Elle s'est terminée précocement et violemment le 14 octobre 2023 à Plainfield, à quelques dizaines de kilomètres de Chicago, dans l'Illinois, où il existe une importante communauté palestino-américaine. Joseph Chouba, le propriétaire du logement de la famille, s'attaque à l'enfant lardé de 26 coups de couteau et à la mère qui survivra à une douzaine de blessures. Les enquêteurs font le lien entre l'attaque du 7 octobre et la radicalisation de l'homme, qui écoutait apparemment des radios conservatrices. Selon la mère, Joseph Chouba était en colère à cause de la guerre et a lancé son attaque après qu'elle l'a encouragé à prier pour la paix. À l'époque, Joe Biden avait parlé d'une attaque choquante et répugnante et il avait expliqué qu'il n'y avait pas de place dans le pays pour la haine. L'un de ses derniers actes en tant que président était de recevoir la mère de l'enfant à la Maison Blanche. Joseph Chouba a décidé de plaider non coupable des chefs d'accusation, meurtre, tentative de meurtre et crime de haine. Des représentants de la communauté musulmane locale disent espérer qu'il sera enfermé jusqu'à la fin de ses jours. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Volodymyr Zelensky attendu à la Maison-Blanche ce vendredi. Kiev et Washington sont tombés d'accord dans le dossier des minerais ukrainiens, considéré comme crucial pour obtenir le soutien des États-Unis. Cette annonce intervient sur fond d'inquiétude de Kiev et des Européens d'un accord dans leur dos. Et alors que de vives tensions sont apparues la semaine dernière entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, le contenu du projet d'accord n'a pas encore été dévoilé, tout comme le programme exact du président ukrainien, qui pourrait aussi s'entretenir avec des élus du Congrès américain. Et toujours dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux chercheurs du Centre national de la recherche scientifique ont reconnu être à l'origine du jet d'engin explosif sur le consulat général de Russie. Ça s'est passé lundi à Marseille, dans le sud de la France, le jour du 3e anniversaire du début du conflit. Aux Philippines, cela fait 39 ans, jour pour jour, que la révolution a renversé Ferdinand Marcos. Le dictateur qui avait placé le pays sous loi martiale quitte le pouvoir en février 1986, après une semaine de manifestations populaires, notamment dans la capitale, Manille. Aujourd'hui, son fils, Marcos Jr., est au pouvoir et il tente de minimiser cet anniversaire cher aux Philippins. Une raison de plus pour descendre dans la rue avec un mot d'ordre, lutter contre les familles Marcos et Duterte, les deux grandes dynasties qui se disputent le pouvoir. Dans la foule, notre correspondante Nemo Lecoq James.
Plus jamais, c'est ce que clame la foule qui a envahi les rues de Manille près de 39 ans jour pour jour après la révolution.
Ce jour-là, en 1986, j'avais 14 ans. J'étais ici avec mes parents.
Aujourd'hui, le temps de la dictature est fini. Pourtant, la plupart des manifestants ici ne viennent pas seulement par devoir de mémoire. Sur les pancartes, on peut lire des slogans contre le président actuel, Marcos Jr., et contre la famille Duterte.
La jeunesse philippine marche encore en ce jour pour se battre pour notre liberté, pour se battre pour notre futur que le dictateur Marcos, mais aussi son fils et la famille Duterte nous ont volé.
Depuis que le fils du dictateur est au pouvoir, l'anniversaire de la révolution est minimisé, alors que ce jour est traditionnellement considéré comme un jour de fête où les Philippins ne sont pas censés travailler, Marcos a décidé de ne pas le déclarer comme un jour férié.
Aujourd'hui, ce n'est pas férié, nous avons cours après.
Dans les universités, pas question de se laisser faire. Ruby Bernardo, professeur, a emmené ses élèves dans la rue.
Rien n'a changé depuis les années 1970. Nous avons encore Marcos et Duterte. Il y a encore de la corruption, il y a encore de la pauvreté. Donc c'est notre rôle comme professeur de se battre contre le révisionnisme et contre la corruption.
Concrètement, les manifestants exigent une plus grande transparence dans le budget 2025 du gouvernement et surtout la condamnation immédiate de la vice-présidente Sara Duterte dans son procès en destitution. Nemo Lecoq James, Manille, RFI.
Sans abeilles, pas de culture. Elles sont indispensables à la pollinisation. Mais pourtant, nous sommes en train de dévaster les écosystèmes naturels. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, les négociateurs de plus de 150 pays se retrouvent depuis ce mardi matin à Rome. Ils n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord à temps lors de la COP biodiversité de Cali en novembre dernier et reprennent donc leurs travaux. Mais entre-temps, Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche et ça n'arrange pas les choses, comme l'explique Agnès Alossery. Elle travaille à l'Institut du Développement durable et des relations internationales.
Les États-Unis ne sont pas partis à la Convention sur la diversité biologique, donc le fait que Donald Trump ne soit pas du tout pro-environnement, ça ne va pas affecter directement la teneur des négociations. En revanche, les États-Unis sont finalement un gros contributeur pour le financement de la biodiversité à travers le monde, via la coopération bilatérale et USAID qui a eu beaucoup de crédits coupés, qui soutiennent directement des pays ou des grosses ONG qui vont derrière agir dans les pays en développement. Et aussi, les États-Unis sont contributeurs au Fonds pour l'environnement mondial qui, pareil, finance des projets dans de nombreux pays. Donc ça va changer la capacité de la COP de compter sur ces instruments extérieurs. Ça veut dire que pour les pays en développement, je pense qu'il faut qu'ils avancent plus prudemment vis-à-vis des bailleurs qui sont encore engagés dans le financement de la biodiversité. Et pour les bailleurs, ça veut dire plus se coordonner pour apporter un soutien efficace aux pays, en sachant que, de toute façon, ils vont pas pouvoir, eux, remplacer ce que les Américains ne feront plus.
Un propos recueilli par Lucille Gimbert, RFI, il est 21h09 à Santiago. Le gouvernement chilien déclare l'état d'urgence et un couvre-feu dans la capitale. Depuis plusieurs heures, une grande partie du pays est plongée dans le noir. La faute à une panne de courant massive qui paralyse le Chili. À Santiago, le métro a dû être évacué, le service suspendu. Hôpitaux et prisons fonctionnent normalement grâce à des générateurs, rassurent les autorités qui espèrent un retour à la normale dans les prochaines heures. RFI, il est 1h10 à Paris, une heure de moins, Antoine Universel, tout de suite, couleur tropicale avec Claudicia.